Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage vous propose de partir dans les étoiles, loin, bien plus loin que notre système solaire où gravitent autour du Soleil nos 8 bonnes planètes. Nous vous emmenons donc à la découverte des planètes extrasolaires. En seulement 10 ans, près de 200 planètes de ce type ont pu être découvertes. Alors à quoi ressemblent-elles? Quelles sont les méthodes de détection? Comment pouvons-nous faire pour mesurer leur masse, en savoir plus sur leur noyau, alors que nous restons cloués au sol? Et même, pourrait-il exister une autre planète Terre? Pour en parler avec nous, Tristan Guillot est avec nous. Tristan Guillot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à l'Institut de France à Paris, puisque vous nous venez de Nice, où est situé l'Observatoire de la Côte d'Azur, où vous travaillez. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, astrophysicien donc, et vous avez fait une conférence au Bureau des Longitudes, qui est une institution qui fait partie de l'Institut de France. Et donc, c'est sur ce sujet que nous allons pouvoir discuter de ces fameuses exoplanètes dont vous connaissez tout. Vous allez pouvoir donc nous en dire plus, puisque c'est une conférence que vous avez menée au Bureau des Longitudes. Alors, tout d'abord, pour commencer, Tristan Guillot, il va falloir faire un point de vocabulaire. Qu'est-ce que nous appelons exoplanète?
Disons que c'est tout simplement une planète qui orbite autour d'une étoile autre que notre Soleil. Donc on est en dehors de notre système solaire, autour d'autres étoiles, et on s'est rendu compte depuis seulement une dizaine d'années qu'on a des planètes qui ressemblent ou pas aux nôtres, certaines sont assez exotiques, en orbite autour de ces étoiles.
Alors nous avons des étoiles, des naines brunes, des planètes géantes, des planètes telluriques. Il va falloir peut-être les classer, on va dire. Alors est-ce que vous pourriez nous faire le classement préalable?
Oui, alors une étoile, notre Soleil est une étoile parmi des tas d'autres. Les étoiles sont très très variables les unes les autres en masse et en luminosité. Certaines sont très très brillantes, certaines sont beaucoup moins massives et moins brillantes. Notre Soleil est une étoile moyenne dans la galaxie. Alors ces étoiles, elles sont caractérisées par une propriété essentielle, c'est que elles brûlent de l'hydrogène, elles le transforment en hélium, c'est ça qui leur donne leur luminosité. Alors, elles sont capables de brûler cet hydrogène parce qu'elles sont très massives, et donc au centre, on a des températures de plus d'un million de degrés, et c'est ça qui permet cette fusion. Quand on a des masses plus faibles, à moins de, disons, un dixième de la masse du Soleil, un petit peu moins que ça, l'objet n'est plus capable de brûler cet hydrogène, ou seulement il le brûle très temporairement, et c'est un objet qui va continuer à se contracter progressivement. Ça, ces objets-là, on les appelle des naines brunes. Ce sont aussi des objets qu'on a découverts récemment,
oui,
depuis seulement 1995, et donc ce sont des objets tout à fait intéressants, mais qui sont très difficiles à détecter parce que, très faibles, ils émettent beaucoup moins de lumière que des étoiles.
Que les étoiles.
Alors ensuite, on a un domaine dans les masses encore plus faibles où on a des objets qui ne vont absolument pas brûler ni d'hydrogène, ni un isotope qui s'appelle le deutérium, qui est un,
oui,
petit peu plus facile à brûler. Alors ceux-là, soit on a envie de les appeler toujours naines brunes, soit pour l'instant, on a choisi une définition temporaire de planète géante pour ces masses faibles. Alors ces masses, elles correspondent à peu près à un centième de la masse du Soleil. Donc un centième de la masse du Soleil, on a quelque chose qui, point de vue structure et évolution, va ressembler très fort à Jupiter, qui est la planète la plus massive du système solaire. Donc là, Jupiter, c'est un millième de la masse du Soleil. On est encore descendu en masse. Et là, on est dans le domaine de ces planètes géantes. Alors, il y a une petite complication, c'est qu'on a envie d'appeler planètes des objets qui se forment autour d'étoiles.
Oui.
Disons, les étoiles, on sait qu'elles se forment en général, dans des grandes pouponnières d'étoiles dans la galaxie. On a des masses de gaz très importantes qui vont se contracter et en quelques millions d'années, ou centaines de milliers d'années, on va donner naissance à des étoiles par la contraction de ces nuages moléculaires. Et on va donner naissance à beaucoup d'étoiles en même temps, en général. Dans le cas des planètes, ce qui se passe, c'est que quand on forme ces étoiles, la matière ne va pas se retrouver directement dans l'étoile. Comme on a toujours un petit peu de rotation dans ces nuages moléculaires, ça tourne un petit peu. Comme ça se contracte énormément, c'est vraiment sur des ordres de grandeur, on va avoir le phénomène de la patineuse qui ramène ses bras vers elle et qui tourne de plus en plus vite.
On imagine tout à fait l'image en fait, hein, que l'on peut voir comme ça, des photos que l'on peut voir dans les magazines scientifiques.
Voilà, alors il faut imaginer là qu'on a une patineuse mais qui a des bras extrêmement longs et qui va les ramener vers elle. Donc la patineuse, c'est l'étoile en train de se former, les bras, c'est le gaz qui se contracte, et il ne va pas arriver directement sur l'étoile à cause de la force centrifuge, en fait. Et donc, il va passer par une phase de disque autour de l'étoile. Donc, on a de la matière aplatie, comme une petite soucoupe ou une crêpe, autour de l'étoile. Bon, c'est un petit peu évasé. Et c'est là que les planètes vont se former. Et donc, on a là un mécanisme de formation qui est différent entre des étoiles formées par instabilité gravitationnelle, donc à partir de ce nuage, et ces planètes qui vont se former dans un disque plus progressivement. Et on pense qu'elles se forment par accrétion, donc des solides qui vont se condenser parce que les températures sont suffisamment basses et former des cailloux de plus en plus gros.
Oui.
Et puis, quand on devient suffisamment gros, on capture le gaz qui est autour. Donc là, à ce moment-là, on forme une planète géante. Ce qui se passe, c'est que on ne comprend pas bien où ça se passe, comment ça se passe exactement. On voit bien quels sont les gros mécanismes qui sont en jeu, mais on n'est pas capable de dire jusqu'à telle masse, c'est une planète, et à partir de telle masse, c'est une naine brune. Donc la limite est confuse, et donc on essaye à la fois avec la théorie, mais beaucoup avec les observations, à avoir des contraintes pour pouvoir apprendre mieux ce qui se passe.
Alors maintenant que nous avons fait notre petit point de vocabulaire, on a bien compris, pour découvrir ces fameuses exoplanètes, il faut d'abord s'intéresser aux étoiles. Et en plus, c'est ce que nous pouvons voir avec les télescopes, ou peut-être même à l'œil nu, je ne sais pas.
Voilà, tout à fait, parce que déjà, on a vu. Donc les étoiles de moins en moins massives sont de moins en moins brillantes, donc les naines brunes sont plus difficiles à découvrir, et les planètes sont extrêmement peu brillantes. Hein. On parle là de 1 million à 1 milliard de fois moins brillantes qu'une étoile. Donc ce sont vraiment des objets extrêmement, extrêmement difficiles à détecter, qui sont en plus juste à côté de ces phares dans notre ciel que sont les étoiles. Donc, on va s'intéresser d'abord aux étoiles. On va essayer, pour détecter des planètes, de voir comment bougent ces étoiles, comment leur luminosité varie. Et de là, on va en déduire la présence de planètes. C'est ce
Alors,
qui s'est passé dans un premier temps.
Est-ce que chaque étoile a ses planètes ?
Alors,
parce que si on suit votre raisonnement, en fait, ces phénomènes d'accrétion pourraient se retrouver pour chaque étoile ?
Oui, alors ça, ben c'est une question dont on n'a pas encore la réponse. Il y a seulement une quinzaine d'années, dans les débuts des années 90, on était assez sceptique, c'est-à-dire que au départ, on était parti d'une idée où notre système solaire ne devait pas être si spécial, mais on n'avait que cet exemple-là. Et on a commencé à dire « Ah, je vois une étoile bouger, ça veut dire qu'il y a une planète autour. » Et à chaque fois, ces observations se sont révélées fausses. Et donc, on est arrivé dans les années 90 avec beaucoup de méthodes qui n'avaient pas marché. Et donc, on s'est dit « Ah, bah, peut-être que vraiment notre système solaire est unique. » Et donc, il y a très peu de planètes. Donc, ça va être vraiment difficile de découvrir des planètes comme la Terre et puis potentiellement la vie. Alors, en 1995, vraiment,
oui,
le champ a changé quand on a découvert la première planète en orbite autour d'une étoile comme le Soleil.
Là, c'était à l'Observatoire de Provence ?
C'était à l'Observatoire de Haute-Provence.
Donc, on dit Cocorico ?
voilà, on est vraiment très fort associé à la découverte, même si elle a été faite par deux astronomes suisses de l'Observatoire de Genève. Mais c'est vraiment un effort international et où en France, on a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Et c'est vrai que c'est une belle réussite. Et ce qui s'est passé, c'est que cette première planète qu'on a découverte, c'était pas du tout celle qu'on attendait.
Que vous attendiez, c'est-à-dire parce que vous faisiez des recherches sur d'autres étoiles, c'est ça ?
Alors, ce qui se passait, c'est que les gens s'étaient dit, on a notre système solaire, on voit qu'on a des petites planètes comme la Terre, Vénus, Mars, qui sont proches du Soleil, et puis on a les grosses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, qui sont les planètes géantes. Donc Jupiter, c'est 300 fois la masse de la Terre, c'est 10 fois son rayon. Donc ce sont des planètes qui sont beaucoup plus grosses, donc plus faciles à détecter, mais plus loin de l'étoile. Donc on s'était dit, ah, on comprend ce qui se passe dans ce mécanisme d'accrétion dont j'ai parlé. Mais évidemment, l'accrétion, elle va être possible quand on a des corps qui peuvent être solides. Donc, quand on est à plus basse température, on a plus de choses qui peuvent se solidifier. Et donc, en particulier, au-delà de 3 unités astronomiques, 3 fois la distance Terre-Soleil, la température descend suffisamment pour que la glace condense et forme donc des grains de glace. Et donc ça va permettre d'accumuler de la masse plus rapidement et de former des noyaux de planètes plus massifs rapidement. Et donc, ce sont ces objets-là qui vont pouvoir capturer l'hydrogène et l'hélium. Donc, on se disait, on comprend, les planètes telluriques, c'est près de l'étoile, et les planètes géantes,
loin. C'est loin.
Donc, les planètes géantes, comment la technique la plus facile, enfin, c'est pas le bon terme, disons, la moins ardue pour découvrir ces planètes, c'est de voir bouger l'étoile et d'en déduire la présence d'une planète. Il faut attendre que la planète fasse un tour complet autour de l'étoile, parce que sinon, on peut pas distinguer une étoile d'une planète. Enfin, c'est difficile. À ce moment-là, donc, on se disait, mais il faut attendre des années pour découvrir une planète. Et la surprise, c'est qu'on a trouvé une planète comme Jupiter, mais au lieu d'être très loin et de tourner en 10 ans autour de son étoile,
elle tournait en 4 jours.
Donc c'était vraiment quelque chose de complètement inattendu. Et d'ailleurs, la même année, il y avait eu un article dans le journal Nature pour dire « Ah, les planètes géantes sont toutes au-delà de 3 unités astronomiques et donc il faudra longtemps pour les découvrir ». Heureusement que Michel Mayor
et au même moment, vous découvrez Pégase.
Non, n'ont pas écouté les théoriciens et ont découvert cette planète. Voilà,
qui s'appelle Pégase, c'est ça ?
Alors, c'est 51 du Pégase. Ça, c'est le nom de l'étoile.
Oui.
Et on ajoute un petit B pour dire, il y a un compagnon. Il se trouve que c'est un compagnon planétaire, mais dans le nom, on ne fait pas la distinction entre un compagnon planétaire ou un compagnon stellaire.
Alors, je vous propose de marquer une courte pause, Tristan Guillouis. On se retrouve tout de suite après pour parler plus en détail de 51 Pégase B. À tout de suite.
La médiathèque de Canal Academy, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme ? Vous avez apprécié cette émission ? Vous aimeriez réentendre cet académicien ? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Academy. Le téléchargement est gratuit.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Tristan Guillot, astrophysicien qui a mené donc une conférence au Bureau des Longitudes sur la naissance des exoplanètes, la connaissance que nous avons des exoplanètes. Alors nous poursuivons notre éclairage sans plus tarder. Alors en 1995, la première exoplanète est découverte à l'Observatoire de Haute-Provence. Et cette exoplanète s'appelle 51 du Pégase B. Comme voilà, vous l'avez expliqué.
C'est l'étoile numéro 51 du Pégase, dans la constellation du Pégase. D'ailleurs, elle est visible à l'œil nu par une nuit suffisamment sombre. Il faut être dans de bonnes conditions, mais on peut la regarder directement.
Alors, je suppose que les astrophysiciens que vous êtes avaient travaillé longuement dessus. Et cette planète doit avoir des propriétés assez particulières.
Alors, cette planète, c'est une planète qui est très très proche de son étoile, qui a à peu près la masse de Jupiter, mais on n'en sait pas beaucoup plus, parce que on n'a que la mesure du déplacement de l'étoile autour d'un centre de gravité et on ne voit pas la planète. Donc, ce qu'on peut dire, la masse minimale de cet objet et sa distance à l'étoile et ce qu'on appelle l'excentricité de son orbite, c'est-à-dire est-ce que l'orbite est circulaire, l'orbite de la planète autour de l'étoile est circulaire ou elliptique. Dans ce cas, c'est une orbite circulaire, ce qu'on comprend bien parce que la planète étant très proche de l'étoile, on a un phénomène de marée entre l'étoile et la planète, comme entre la Lune et la Terre. Donc c'est quelque chose qu'on comprend. Mais sur cet objet-là, je dirais, la science qu'on peut faire actuellement s'arrête là.
D'accord, disons, on ne connaît pas forcément sa masse, on ne connaît pas forcément son rayon, si ?
Voilà, on n'a pas son rayon, on a cette valeur minimale de sa masse, on pense qu'elle n'est pas beaucoup plus massive que ça, en particulier ça ne peut pas être une étoile ou une naine brune, mais on ne peut pas dire exactement quelle masse elle a. Alors, les progrès qu'on a pu faire dans le domaine, pour ces objets-là dont on peut avoir seulement une valeur de la masse et la distance orbitale et cette excentricité, sont liés à la statistique qu'on a maintenant qu'on a détecté plus de 200 exoplanètes. Donc, en particulier, ce qui est intéressant, c'est que cette planète est très très proche de son étoile. Et donc, tout de suite, s'est posé le problème. Enfin, il y a deux problèmes qui se sont posés. C'est comment est-ce qu'elle peut survivre à ces distances-là? Est-ce que c'est un objet très particulier? Et puis, comment est-ce qu'elle a atterri là? Est-ce qu'elle s'est formée directement, oui, aussi près? Ou est-ce qu'elle a bougé?
Et ça, en l'occurrence, vous vous posez encore la question.
Alors, on se pose encore la question, mais disons, on a de plus en plus d'évidence que ces objets, quand ils se forment, ils bougent, ils migrent.
Bien sûr.
Parce qu'on a des interactions entre ces planètes qui sont en train de se former et ce disque de gaz. Et en général, le disque de gaz va avoir tendance à pousser ces planètes vers l'étoile. Et puis ensuite, alors se pose le problème de les parquer un petit peu très près de l'étoile et de comment est-ce qu'elles peuvent survivre là. Alors ça, ce deuxième problème, aussi, on a montré qu'en fait, ces planètes, même si elles étaient faites comme Jupiter et Saturne, essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Donc, l'hydrogène et l'hélium sont les éléments les plus simples et les plus légers et aussi les plus abondants qu'on peut trouver dans l'univers. Donc, le Soleil est fait essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Jupiter et Saturne sont aussi faits essentiellement d'hydrogène et d'hélium. On s'attendait à ce que les planètes géantes, en général, soient faites, donc dès qu'elles ont une certaine masse, essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Et on a fait des calculs pour 51 Pégase B. Et c'est une planète qui, même très proche de son étoile, doit se contracter suffisamment rapidement pour survivre à ces distances-là, même si elle est chauffée énormément, tout en étant faite d'hydrogène et d'hélium.
Mais toutes ces planètes, ces exoplanètes, ne sont pas forcément proches de leur étoile, puisque c'est un terme que j'ai découvert, sur les planètes donc, qui sont proches de leurs étoiles, on les appelle les pégasides. Et il y en a une dizaine pour le moment.
Alors,
sur les 200 qui ont été découvertes de planètes.
Effectivement, on a toute une série de planètes. Maintenant, on a tout un bestiaire parce qu'on a découvert d'abord les planètes qui étaient les plus faciles à découvrir, donc les planètes proches et massives. Et donc, c'est celles-là qui sont apparues au début. Effectivement, on a trouvé qu'ils tournent en seulement quelques jours. Même on a une planète, je crois que le record, c'est un jour à peu près de période. C'est vraiment extrêmement proche. Mais on a des planètes qui sont plus loin. On a des planètes qui tournent en des dizaines de jours, des planètes qui sont à une unité astronomique, comme la Terre, mais qui sont des planètes géantes, donc nettement plus massives. Et puis, on a des planètes qui sont plus loin et on commence à découvrir des planètes qui sont à 5 unités astronomiques, disons, qui ressemblent plus à Jupiter. Mais celles-là sont plus difficiles à découvrir parce qu'il faut attendre beaucoup plus longtemps pour qu'elles fassent un tour autour de leur étoile. Donc effectivement, on a les proches. Alors, on les a appelés pégasides, disons parce que par convention astronomique, on les nomme après les premiers objets qui ont été découvert dans la constellation du Pégase. C'est un terme qui n'est pas officiel. Certains les appellent Jupiter chaud aussi. Il y a plusieurs terminologies actuellement. Mais moi, j'aime bien ce terme de Pégaside.
De Pégaside. Alors, il y a peut-être une précision à apporter. C'est que donc, la première exoplanète est découverte en 1995. Je suppose que c'est en corrélation avec les nouveaux outils qui sont à votre portée d'astrophysicien. Sinon, on aurait pu les découvrir peut-être bien avant ces exoplanètes.
Oui, alors effectivement, en fait, il fallait de nouveaux outils, pas nécessairement dans ce cas-là des télescopes énormes. Et en fait, le télescope qui a fait cette découverte-là, et puis ensuite qui en a fait bien d'autres, c'est un télescope de 1,93 m, donc à l'Observatoire de Haute-Provence. Donc, ce qui, du point de vue des astronomes de la communauté maintenant, est un petit télescope, puisqu'on a des télescopes de 8 mètres, 10 mètres au Chili, à Hawaï, qui sont des instruments beaucoup plus performants. Mais disons, ce qui se passe, c'est que pour découvrir ces planètes, il faut du temps. Donc, il faut les observer longtemps et il faut avoir un instrument très stable, parce que ce qu'on va détecter, c'est la vitesse de l'étoile par rapport à nous, et les variations de cette vitesse.
En fonction de cela, vous pourrez déduire s'il y a une planète qui suit derrière.
Exactement. Et on doit être extrêmement, extrêmement précis, parce que le mouvement de l'étoile induit par la planète n'est qu'au maximum d'une centaine de mètres par seconde. Maintenant, avec les instruments actuels, on arrive à avoir une précision sur donc la vitesse de cette étoile, de l'ordre du mètre par seconde, voire moins. Donc, on arrive à voir une étoile bouger à la vitesse de quelqu'un qui marche dans la rue. C'est vraiment quelque chose d'incroyable.
Oui, tout à fait. Mais alors, ça veut dire que quand vous vous dites je vais regarder cette étoile, au départ, c'est le pur biais du hasard ou parce que vous avez un doute sur ce qu'elle peut cacher?
Alors là, c'était complètement au hasard. Et c'est ça qui a rendu la chose difficile aussi, c'est que fallait déjà avoir des instruments très très précis, très très stables, et puis fallait avoir la chance de tomber sur la bonne étoile qui aurait une planète. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des planètes qui orbitent autour d'étoiles autres que le Soleil. Et il y en a, on pense maintenant, environ 5 à 10% de ces étoiles qui possèdent des planètes, enfin au moins une planète géante en orbite. Mais évidemment, les planètes plus proches sont plus faciles à détecter. Donc là, on est plutôt à 1% des étoiles qui ont ces planètes. Et puis, il faut que l'étoile soit suffisamment stable pour pouvoir faire la mesure. Donc, ça rend les choses plus compliquées. Et donc, il faut, pour ça, pour arriver à détecter des planètes, regarder beaucoup, beaucoup d'étoiles. Mais ces 5 à 10%, c'est pas la fin de l'histoire, parce que ce qu'on arrive à détecter actuellement, ce sont essentiellement des planètes géantes. Alors maintenant, on arrive à descendre en masse, à découvrir des planètes qui font seulement quelques masses terrestres, 5 masses terrestres, oui. 10 masses terrestres. Mais c'est beaucoup plus difficile. Donc là, on n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas la statistique pour dire « Ah, telle fraction des étoiles ont ces planètes-là ». Mais il semble que c'est une fraction plus importante encore que pour les planètes géantes. C'est-à-dire que c'est difficile de former des planètes géantes. Il faut qu'on forme un noyau rapidement, qu'on capture le gaz. Et donc, peut-être qu'on a beaucoup de planètes comme la Terre, planètes telluriques, rocheuses, qui orbitent autour d'étoiles. Et donc, peut-être qu'on a une sœur jumelle de la Terre qui
ça,
est
on
pas
le sait
très
pas
loin
encore. On le sait pas encore, mais ce
dans
serait
la
pas...
galaxie.
On ne le sait pas encore, mais ce serait fortement probable. Quel est le taux de probabilité, même si je sais que j'imagine que vous ne fonctionnez pas en ces termes-là?
Disons que les modèles de formation des planètes, qui pour l'instant, je les considère un petit peu comme des recettes de cuisine. On met ce qu'on croit connaître des disques, de l'évolution des disques, de l'interaction des planètes et des disques, de l'accrétion, on a beaucoup de points d'interrogation. Donc, pour faire ces modèles, on prend des raccourcis et on essaye de construire quelque chose qui ressemble à ce qu'on observe. Et à partir de là, on fait des prédictions pour ce qu'on n'arrive pas à détecter actuellement, notamment les planètes de la masse de la Terre. Et ces modèles-là trouvent un grand nombre de petites planètes qui se forment. Donc, on est quand même très optimiste par rapport à ça. Et c'est vrai que les observations récentes de planètes de masse, de seulement quelques masses terrestres qui ont été faites, nous laissent penser que vraiment, ce sont des objets qui sont relativement abondants parce qu'ils sont très, très difficiles à détecter. Et pourtant, on arrive à en détecter quelques-uns.
Alors, je vous propose de marquer une seconde courte pause, Tristan Guillou, et puis on se retrouve après pour parler de vos recherches, des travaux avec votre équipe, et puis peut-être de l'avenir, qu'est-ce qui va se passer avec notamment la mission Corot, quelles vont être les découvertes que nous pourrons réaliser dans les années à venir. À tout de suite. Canal Academy vous propose une nouvelle rubrique, l'Académie des blogs. On estime qu'actuellement, il s'ouvre un blog toutes les 2 secondes dans le monde et nous ne pouvions pas passer à côté d'un tel phénomène de société, surtout lorsque les académiciens s'y mettent aussi. Alors retrouvez tous les lundis un blogueur du monde de l'édition, de la presse, de l'enseignement ou tout simplement amateur de littérature pour associer l'utile à l'agréable. En compagnie de David Abiker et d'Élodie Courtejoie, nous vous emmenons à la découverte de la crème de la blogosphère.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Tristan Guillot. Dans cette troisième partie, Tristan Guillot, nous allons pouvoir parler de vos travaux avec votre équipe. Nous allons pouvoir également parler de la mission Corot pour cette année 2007. Mais revenons tout d'abord à vos travaux qui sont liés notamment à la découverte en 1999 d'une autre exoplanète qui a un nom un peu particulier. D'ailleurs, vous pourrez peut-être nous expliquer pourquoi on les appelle comme ça. Donc cette planète s'appelle HD 209-458b. Alors, pourriez-vous nous dresser le portrait, la carte d'identité de cette fameuse exoplanète ?
Alors, oui, effectivement, sur le nom, c'est le nom de, donc comme 51 du Pégase B, on part du nom de l'étoile, HD 209-458, qui est une étoile plus faible, plus difficile à voir à l'œil nu, et donc toutes ces étoiles-là, elles sont cataloguées, donc c'est le catalogue de Henry Draper qui a beaucoup, beaucoup d'étoiles, et celle-là, le numéro 209-458. Bon, on en a plein comme ça maintenant.
Nous avons l'explication
et donc, on
de
rajoute
cette plaque numérologique.
Le petit B pour la planète. Et alors, cette planète, effectivement, elle a marqué un tournant dans le domaine parce que pour la première fois, on est arrivé à vraiment confirmer déjà que ces objets qu'on découvrait, c'était bien des planètes.
On n'en était pas encore certain, même à l'époque de Pégase, enfin 51 Pégase B.
Même à l'époque de Pégase, enfin oui, de 51 Pégase B, certains disaient « Ah, mais ça peut être des oscillations très particulières de ces étoiles qui font que, en fait, elles bougent exactement comme le ferait une planète. »
D'accord, donc en 95, la communauté scientifique était encore divisée.
Voilà, et dans les années qui ont suivi, 96-97, même si quand même les observateurs avaient fait, les découvreurs avaient fait vraiment beaucoup de tests et vraiment un travail très très minutieux. Donc c'est vrai qu'on a eu des petits doutes à certains moments, mais ça s'est confirmé. Et là, en 99, ce qu'on a découvert, donc c'est une planète, là encore très proche de son étoile, 4 jours.
Qui appartient aussi à la constellation du Pégase.
Voilà, qui, dont l'étoile appartient à la constellation du Pégase, effectivement, par chance.
D'accord, c'est le pur hasard.
Pur hasard. Et donc, cette planète a une orbite qui est telle qu'elle passe tous les 4 jours, tous les 3 jours et demi, en fait, entre son étoile et nous. Et donc, là, on a le même phénomène que ce qui s'est produit il y a quelques années pour le transit de Vénus.
Oui.
On a Vénus qui est passée devant le Soleil. Et bien là, il se passe la même chose.
Tous les 3 jours.
Tous les 3 jours et demi, cette exoplanète qui passe devant cette étoile HD 209-458. Et ça, évidemment, on ne peut pas voir directement la planète comme on a pu voir Vénus sur le Soleil, parce qu'une étoile, c'est tout petit, c'est très très loin, c'est à des années-lumière de nous, même si toutes ces exoplanètes qu'on découvre, elles sont dans notre banlieue proche, hein, dans la galaxie, mais quand même, les distances sont tellement considérables que ces étoiles sont vraiment à plusieurs dizaines d'années-lumière, voire centaines d'années-lumière.
Donc quand elles passent, ces planètes, devant les étoiles, on ne les voit pas forcément passer.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une petite diminution de la brillance de l'étoile. Et cette diminution, elle est de l'ordre de 1% pour une planète comme Jupiter autour d'une étoile comme le Soleil, parce que Jupiter, c'est 10 fois plus petit que le Soleil. Donc, en surface, c'est 100 fois plus petit en surface.
Oui.
Et donc, le rapport de la surface de la planète sur la surface de l'étoile, c'est 1/100. Donc, c'est ce 1/100 de baisse de luminosité qu'on arrive à voir. Et ce qu'on est arrivé à détecter, cette fois-là, avec, là encore, un petit télescope, avec la photométrie très, très précise, c'est exactement au moment prédit par les vitesses radiales, donc cette autre technique, on a eu cette diminution de brillance. On a su que la planète passait devant. Et donc, à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est que on arrive à connaître exactement...
La surface, à mesurer la surface.
La surface, donc la taille de la planète. Et on a aussi sa masse. On n'a plus cette incertitude qui fait qu'on n'avait qu'une valeur minimale de la masse parce qu'on sait comment est orientée l'orbite. Et donc, on va pouvoir caractériser cette planète, c'est-à-dire dire elle a telle masse, tel rayon et donc telle densité. Et donc commencer à se dire ben, de quoi elle est formée. Et donc tester ces modèles d'évolution. Alors il s'est trouvé...
Et c'est là que votre équipe intervient.
Voilà, parce que moi j'avais eu la chance à l'époque où 51 Pégase avait été découvert, de faire ces premiers modèles d'évolution de ces Pégasides très proches de planètes géantes, très proches de leur étoile.
Vous étiez en pleine rédaction de votre thèse, c'est ça?
C'était après. J'étais aux États-Unis à l'époque parce que quand on en astronomie après une thèse en général on va pendant quelques années à l'étranger et puis on revient, essaye d'avoir un poste et donc voilà, j'étais en plein dans le bain et donc on avait c'était une atmosphère on avait plein d'idées qui circulaient, c'était
une émulation vraiment très
intéressant,
sur ce sujet-là.
L'émulation exactement. Et donc on avait fait ces premiers modèles pour montrer que ces planètes, elles devaient, malgré la proximité à l'étoile, se contracter suffisamment et avoir des rayons pas très différents, disons 30-40% de plus que Jupiter. Et il s'est trouvé effectivement que HD209 avait un rayon de 35% plus gros que Jupiter, donc ça collait bien avec les théories. Et donc, de là, on a compris que effectivement pour une fois, disons, nos modèles de formation n'avaient pas l'air si faux et que ces planètes étaient composées essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Mais on ne pouvait pas en dire beaucoup plus à cette époque-là avec un seul objet découvert. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte en précisant un petit peu nos modèles de l'atmosphère de ces planètes, parce que c'est ça qui va régir la contraction de la planète. C'est un gros couvercle qui va permettre à la chaleur de s'échapper ou non. Donc, avec des modèles d'atmosphère plus précis, on s'est rendu compte que nos modèles ils prédisaient des rayons qui étaient un petit peu plus petits que ce qui était observé pour HD209.
Alors pourquoi ce petit taux d'erreur, on va dire?
Pour l'instant, on n'a pas de réponse claire. Alors évidemment, les théoriciens ont avancé différentes explications. Moi, j'en ai avancé une ou deux là-dedans. Disons, il y a une possibilité, par exemple, qu'il y ait des phénomènes de marée et de dissipation de chaleur dans la planète qui font que la planète, du coup, se refroidit un petit peu moins vite. Des problèmes, des petites erreurs dans, ce qu'on appelle les équations d'état, donc comment se comporte la matière à très haute pression, donc ce qu'on utilise pour modéliser ces planètes, ou comment l'énergie est transportée dans ces planètes. Bon, On ne sait pas encore, parce que c'est un domaine très difficile à sonder en laboratoire. Donc, on fait des progrès petit à petit. On sait qu'on a quelque chose qui manque, mais on comprend, disons, dans sa globalité, ce qui se passe, je pense, assez bien.
Alors, avec votre équipe, vous mettez en place une idée qui, après, va se révéler être vraie. Enfin, en tout cas, je le pense. C'est que la composition des étoiles est intimement liée à la composition des exoplanètes qui tournent autour de ces étoiles.
Alors, en fait, ce qu'on a fait, au départ, on n'avait qu'une seule de ces planètes, donc HD 209. Et puis, ces deux, trois dernières années, les techniques d'observation sont devenues meilleures, plus précises, et là, on a réussi à en découvrir 14 de pégaside qui transitent devant leur étoile, donc pour laquelle on a une masse, un rayon. Et donc, ce qu'on a fait, c'est simplement calculer l'évolution de chacune de ces planètes. Mais au lieu de les prendre séparément, ce que je me suis dit, c'est bon, on va essayer d'utiliser les mêmes hypothèses pour toutes les planètes. Donc, on va dire, on a une petite erreur qu'on fait pour HD 209. On a une source d'énergie manquante, disons, on va l'appliquer à toutes les autres planètes. Et à partir de là, on va dire, si j'ai une planète, déjà, est-ce que j'arrive à expliquer les rayons des planètes qui sont les plus grosses? Parce qu'on en a découvert certaines qui étaient petites, certaines qui étaient grosses. Donc, il fallait faire un petit peu le tri là-dedans. Et à partir de là, dire celles qui sont petites, combien est-ce que je dois rajouter d'éléments lourds à mon hydrogène et à mon hélium pour expliquer leur rayon, leur taille. Et donc, à partir de là, on a fait ce calcul on a trié ça en fonction de l'enrichissement de l'étoile en éléments lourds. Parce qu'il faut savoir que les étoiles sont pas pareilles les unes les autres. Elles sont toutes, ces étoiles de type solaire, faites essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Mais on a une composition en éléments lourds qui varie, soit c'est 1%, 2%, 3%. Déjà, on savait que plus on avait une étoile riche en éléments lourds, plus on avait de chances de découvrir une planète géante autour. Donc, il y avait quelque chose lié à la formation de ces planètes qui dépendait de cette quantité d'éléments lourds. Et ça, on le comprend bien parce que ce phénomène d'accrétion, de collage de ces grains, il va dépendre, il va être beaucoup plus facile si on a plus d'éléments lourds en présence.
Donc, grosso modo, en fait, en regardant l'étoile, on peut deviner, si elle a des planètes qui tournent autour d'elle, on peut deviner aisément, entre guillemets, une partie de la composition de la planète.
Oui, alors, disons qu'on n'en est pas encore là parce que on progresse à petits pas. Pour l'instant, on a un échantillon de 14 objets. Et ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on arrive à avoir des contraintes. Donc, on peut dire, en général, ces objets-là de plus de la masse de Saturne, disons le plus petit qu'on ait découvert pour l'instant, qui est en transit devant son étoile, il fait environ 120 masses terrestres. Saturne, c'est 95, Jupiter, c'est 320. Donc, on est proche de Saturne, on a un objet qui est assez petit. Et le plus massif, il fait 430 masses terrestres. Donc, on est dans cette fourchette-là. Et on arrive à dire que ces objets-là, ils sont formés de beaucoup d'hydrogène et d'hélium, déjà. Ça, c'est, semble-t-il, une constante. Mais on a des objets qui contiennent peu d'éléments lourds, donc comme HD 209 458b. Donc ce sont des objets qui du coup sont plus grands, parce que dès qu'on rajoute des éléments lourds, on a tendance à avoir quelque chose de plus dense, donc de plus contracté, plus petit. Et on a des objets qui contiennent beaucoup d'éléments lourds et de façon assez surprenante, jusqu'à au moins une centaine de masses terrestres en éléments lourds. Donc c'est quelque chose qui n'avait pas été prédit par les modèles de formation.
Oui.
Donc ceux qui travaillent là-dessus sont en train de faire ça, d'essayer de voir justement comment on peut expliquer ces masses importantes d'éléments lourds. Est-ce qu'il y a eu des impacts géants deux planètes qui se rencontreraient l'une l'autre, l'enveloppe serait éjectée et puis on aurait essentiellement les noyaux denses qui resteraient.
Et ça, ce serait possible parce que chaque planète a son orbite, il n'y a pas de raison qu'elle entre en collision.
Ah, mais il se passe beaucoup de choses hein, dans la formation de ces planètes. On sait d'ailleurs dans notre système solaire maintenant que il y a eu une grande période d'évolution après quelques centaines de millions d'années, qui a donné naissance à ces grands bassins qu'on voit sur la Lune, ça s'appelle le bombardement lunaire tardif, et ça c'est lié à une réorganisation des planètes géantes du système solaire, qui ont certainement pas mal bougé, et donc ce qui a donné une pluie d'astéroïdes et de comètes autour de la Terre. Et ben pour les planètes en dehors de notre système solaire, il se passe des choses comme ça. Et d'ailleurs, on découvre des objets qui sont vraiment très, très exotiques, qui ont des orbites très, très elliptiques, donc comme des comètes, en fait, mais sont des planètes géantes qui tournent autour de leur étoile. Et donc, on pense qu'il y a des choses très violentes qui peuvent arriver.
Qui vont perturber.
Des planètes qui se perturbent l'une l'autre, qui changent d'orbite. Et on voit des systèmes avec plusieurs planètes maintenant. Donc, on peut étudier tout ça. Ce sont des systèmes très, très divers. Et souvent, il y a eu des choses très violentes qui sont arrivées.
Alors, pour terminer cette émission, Tristan Guillot, peut-être que nous pourrions parler des outils. Alors, bien sûr, les télescopes, hein, c'est ce qui nous a servi jusqu'à présent à faire ces découvertes, donc depuis le sol. Avec la mission Coro, là, pour le coup, ça ne sera plus à partir du sol qu'on va pouvoir faire des observations. Et là, ça serait, alors je ne peux que lire, ça serait pour mesurer la pulsation des étoiles et voir les planètes en transit. Alors, pulsation des étoiles et planètes en transit, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots ?
Alors, effectivement, Coro, c'est une petite mission du CNES, donc c'est l'agence spatiale française,
oui,
avec d'autres pays européens, plus le Brésil qui interviennent là-dedans, qui consiste en un petit télescope de 27 cm de diamètre dans l'espace, en orbite autour de la Terre. Et ce télescope, il va observer des champs d'étoiles en continu pendant des périodes longues de 6 mois, en gros. Et alors, effectivement, il y a deux objectifs. À la fois, ce qu'on appelle l'astérosismologie, c'est-à-dire voir les pulsations des étoiles. Donc, on a constaté pour notre Soleil qu'il vibrait. Et ça, c'est un moyen très, très intéressant de sonder l'intérieur de l'étoile. Donc, on a fait des progrès très, très importants sur notre connaissance du Soleil grâce à ça. Et donc, on espère, comme ça, mieux connaître les étoiles en général, en voyant celles qui pulsent, et ces pulsations, on va les déterminer grâce à des variations de brillance de ces étoiles. Alors ça, c'est intéressant pour mieux connaître les étoiles, mais c'est aussi intéressant pour mieux connaître les planètes, parce que une grande partie des incertitudes qu'on a sur la connaissance de ces planètes sont liées à la connaissance de l'étoile. Parce que quand on regarde une planète en transit, on mesure sa taille, mais en fait, ce qu'on mesure, c'est le rapport de la surface de la planète sur la surface de l'étoile. Donc, il faut avoir une bonne connaissance de la surface de l'étoile. Et ça, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse des progrès là-dedans. Donc, Coro sera une étape de ça. Une deuxième étape sera Gaïa, qui nous fera faire des grands, grands progrès là-dedans. Et l'autre partie de Coro, c'est découvrir justement ces planètes qui sont en transit devant leur étoile.
Alors, ce terme en transit, moi, qui m'interpelle un peu.
Alors, c'est le même processus qu'on a abordé tout à l'heure pour HD 209. Donc, c'est une planète qui passe à chaque révolution entre son étoile et nous. Et donc, on va mesurer une petite diminution de la brillance de l'étoile, encore une fois. Alors, l'avantage d'être dans l'espace, c'est qu'on peut observer en continu. On n'a pas des problèmes de variation de l'atmosphère. Et donc, on a une stabilité beaucoup plus grande. Et on va, comme ça, on espère pouvoir détecter des planètes plus petites, comme Uranus, Neptune, en transit, et voir des objets encore plus petits, donc des super-terres, parce que les terres, c'est encore vraiment très difficile à détecter. Il faut vraiment une précision extrême. Mais on va pouvoir découvrir des objets un petit peu plus gros, proches de leur étoile. Mais ça, ça va nous faire faire des grands progrès dans notre connaissance de l'univers et de la formation des planètes.
Donc vous misez beaucoup sur cette mission pour pouvoir vous avancer dans vos connaissances.
Ah, tout à fait, tout à fait. C'est donc une mission qui en plus a été lancée avec succès donc le 27 décembre de cette année. Et là, on a eu les premières images scientifiques le 3 février. On est très, très contents de ce qu'on voit. Pour l'instant, on n'a pas de découverte parce qu'il va falloir analyser ces données très précautionneusement. Mais on a très, très bon espoir d'avoir beaucoup de choses intéressantes. Donc, à la fois pour ces étoiles, et puis pour les planètes, les grosses qui sont importantes aussi, ces planètes géantes qu'on va arriver à mieux caractériser, et les plus petites, je pense qu'on va faire des grands progrès là-dedans. Alors, ça va pas s'arrêter là, c'est une étape. Après, il y a d'autres choses. Moi, personnellement, je travaille sur un projet de photométrie, encore une fois, en Antarctique, qui s'appelle ESTEP.
Oui.
Donc, on va essayer de voir si pourrait faire la même chose depuis l'Antarctique parce qu'on a des conditions de temps qui sont extraordinaires. Et puis là, on peut observer pendant 3 mois en continu. Donc peut-être qu'il y a possibilité d'avoir des choses beaucoup plus ambitieuses ou avec beaucoup de télescopes ou de regarder telle ou telle étoile beaucoup plus précisément. Donc on va tester ça. Et puis au-delà de ça, on a d'autres missions beaucoup plus ambitieuses, qui vont venir progressivement, comme Darwin, qui est une mission pour essayer de caractériser ces planètes et de faire des spectres et d'essayer de voir l'atmosphère et de voir des signatures de la vie s'il y en a. Alors, on va progresser petit à petit. Déjà, il faut découvrir des planètes plus petites que les planètes géantes, des planètes comme la Terre, et arriver à les caractériser mieux.
Donc on a bien compris, finalement on connaît encore bien peu de choses, donc on mise sur ces missions pour toujours agrandir nos connaissances dans ce domaine. Merci Tristan Guillot d'être venu nous voir ici à Canal Academy au cœur de l'Institut de France. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes donc astrophysicien et que vous travaillez à l'Observatoire de la Côte d'Azur, hein, c'est ça?
Oui, dans le sud, à Nice.
À Nice. Eh bien, merci beaucoup. Je renvoie nos auditeurs au site internet de l'Observatoire en question et puis également à notre site internet www.canalacademy.com. Merci beaucoup. Encore une nouvelle fois, encore merci. Et puis, peut-être que vous aurez l'occasion de venir nous reparler ici au micro de Canal Academy des avancées dans vos recherches et notamment en Antarctique. Merci.
Volontiers.
Au revoir.
Merci.